Mesdames, messieurs, bienvenue sur l'antenne d'Aligre FM 93.1 et j'ose affirmer haut et fort que nous sommes en direct, alors on en profite, et bien sûr il y a les podcasts, on pourra les entendre bien entendu, mais voilà, vous écouterez qu'on est aujourd'hui le 28 mars 2026, bonjour Michele Saporiti.
Oh bonjour chère Nathalie.
Ça faisait très longtemps.
Ça fait très longtemps, ouais. C'est toujours un grand plaisir de se voir.
Oui, oui, oui.
En direct sur Radio Aligre FM.
Tout à fait, et voilà, pour notre émission Philosophie au présent.
C'est-à-dire une émission en partenariat avec le Collège international
de philosophie. On est sur l'antenne depuis 8 ans désormais, où on a tenu et on a fait des choses extraordinaires. Et ça continue encore aujourd'hui, puisqu'on a une invitée, une amie.
Absolument.
Mais même si on respectera le voussoiement
de
la radio. Voilà, tout à fait. Mais c'est une amie et une femme qu'on admire, une philosophe, et qui est la nouvelle présidente du Collège international de philosophie.
Alors, chère Nathalie, j'ai le plaisir de présenter notre amie, collègue Barbara Zoli. Bonjour Barbara.
Bonjour Michele et Nathalie.
Merci d'être venue Barbara, c'est un vrai plaisir de vous recevoir sur l'antenne de Philosophie au présent et d'Aligre FM.
Alors, j'ai le plaisir de présenter Barbara Zoli. Vous êtes docteur en philosophie, donc doctorat obtenu à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, et vos recherches, situées à la frontière entre littérature et philosophie, portent sur une approche poétique et politique de l'expérience intérieure. Alors, Barbara Zoli est directrice de programme au Collège international de philosophie, mais une chose dont on est particulièrement fier et content, elle est la nouvelle présidente
de cette institution.
Voilà. Présidente du Collège international de philosophie. Et à côté, justement, elle enseigne à l'Université Paris 8, à l'Université Paris Cité et dans les secondaires, en Académie de Versailles. Alors, Barbara Zoli nous fait le plaisir aujourd'hui, chère Nathalie, d'être avec nous dans une atmosphère tout à fait amicale et aussi, je dois dire, malheureusement, chère Nathalie, un peu triste dans ces jours pour le Collège international de philosophie, parce que nous venons de perdre une figure très importante.
Une des figures fondatrices du Collège international de philosophie, est Jean-Pierre Faye.
Jean-Pierre Faye, oui. Donc, la première question, ce n'est pas exactement une question, mais disons, je voudrais vous faire réagir sur cet événement, justement, qui nous bouleverse, on peut vraiment le dire, et qui nous fait penser beaucoup à cette institution et à l'histoire glorieuse dans le passé, mais aussi dans le présent. Du Collège international de philosophie, Barbara Zoli.
Alors, je voudrais d'abord commencer par vous remercier tous les deux, donc Nathalie Perrin et Michele Saporiti, parce que ça fait davantage, et puis la Radio Aligre FM, ça fait encore plus plaisir de participer à ce genre d'initiative, quand c'est avec des amis, comme vous l'avez dit.
Oui.
Donc, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Et effectivement, je vais commencer par dire que au Collège international de philosophie, nous avons appris la nouvelle de la mort de Jean-Pierre Faye, donc avec beaucoup d'émotion et avec tristesse, parce que Jean-Pierre Faye, comme vous le savez sans doute, était donc les derniers membres vivants fondateurs. Du Collège international de philosophie et donc rédacteur du rapport bleu.
Tout à fait, ce grand rapport.
Et donc ce texte fondateur et cet acte fondateur, qui en même temps un texte et un acte fondateur du Collège, mais il est aussi très important de plusieurs points de vue, parce que comme l'a souligné Emmanuel Faye, son fils, qui est aussi directeur des programmes au Collège international de philosophie.
Et que nos auditrices et auditeurs vont avoir le plaisir d'écouter, puisqu'il va aussi faire des émissions ici, Philosophie au présent.
Oui.
Parfait. Et donc, comme l'a souligné Emmanuel Faye à plusieurs reprises, mais notamment lors du congrès des 40 ans du Collège international de philosophie, Jean-Pierre Fay, son père, et c'est lui qui a proposé les premiers l'idée d'un collège de philosophie décliné à l'international, donc à vocation internationale, en présence de 18 membres, donc de fameux 18 membres, dont Jacques Derrida, et avec qui il avait téléphoné et qui avait été convié à cette réunion. Mais donc, ça a été vraiment la première personne à lancer ce projet dont nous sommes aujourd'hui, dont nous avons hérité aujourd'hui. Donc, il est vraiment très important pour nous. Et aussi, c'était une figure d'une importance particulière du point de vue de son ouverture intellectuelle.
Oui.
C'était un intellectuel qui a touché à tout. Comme on aime, oui. Au Collège international de philosophie. Et il était poète, écrivain, philosophe, sociologue, historien.
Oui, une figure linguistique aussi, non ?
Oui, il a été linguiste. vraiment un chercheur et un intellectuel qui a touché à tout et qui a défendu, qui a été le premier à défendre les projets d'un collège intersciences qui soit ouvert aux arts aussi, et donc au fait que les artistes participent aussi au projet du Collège international de philosophie.
Tout à fait. Bon, une ultime figure qui disparaît de cette institution que nous aimons tant et qui est si singulière dans le paysage français et mondial. Il faut rappeler que c'est une institution qui a été créée en 1983 à l'initiative de Jean-Pierre Fay qui vient de décéder, de Jacques Derrida, de François Châtelet, entre autres, parce qu'il y avait aussi toute une équipe, une intelligentsia de l'époque qui s'est nouée autour de ces grands noms. Voilà. Bon, Michele.
Oui, alors merci pour cette parenthèse tout à fait très importante, Barbara Zoli. Et alors, venons au Collège international de philosophie, au présent,
oui.
comme cette émission. Alors, j'aimerais dire que le Collège international de philosophie est toujours un défi parfois. Qu'est-ce que vous pensez, chère Barbara? Et en plus, qu'est-ce que vous pensez du présent du Collège international de philosophie? Et j'aimerais bien aussi pour les gens qui nous écoutent avoir quelques souvenirs de votre passé, de votre présent autour de cette non-institution en institution. Pourquoi le Collège international de philosophie?
Alors, je voudrais commencer par dire que j'ai connu le Collège international de philosophie grâce à Paris 8, au département de philosophie de l'Université Paris 8, parce que beaucoup de mes professeurs et collègues étaient membres depuis longtemps, depuis longue date du collège. Et donc, j'ai commencé à participer aux activités de collège en tant qu'auditrice, grâce aussi à des collègues comme Nathalie Perrin aussi, qui est aussi présente, du département de philosophie de l'Université Paris 8. Pourquoi les collèges ? Les collèges est une institution qui n'en est pas une, qui m'a tout de suite plu et qui m'a tout de suite conquise. Pourquoi ? Parce que, comme a été souligné par Isabelle Alfondari, c'est une anomalie institutionnelle. Et cette anomalie institutionnelle, ce n'est pas un mot choisi au hasard, c'est très important, c'est une ligne, c'est une zone à défendre, c'est vraiment une ZAD pour nous.
Oui.
Et je tiens particulièrement à cette très belle définition d'Isabelle Alfondari, parce que c'est ce que nous sommes, mais c'est ce que nous visons aussi à rester. C'est-à-dire, maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une configuration différente, très différente, c'est-à-dire que nous faisons partie du Campus Condorcet qui a accepté de nous héberger. Et donc, c'est quelque chose qui peut certes nous apporter beaucoup de richesses et beaucoup de synergies avec d'autres institutions qui font partie du Campus Condorcet. Et en même temps,
on maintient notre anomalie.
Tout à fait. On tient vraiment à rester cette anomalie institutionnelle que nous sommes et qui nous garantit notre hétérogénéité. mais aussi notre caractère international, mais aussi notre caractère complètement, oui, hétérogène et libre, l'effet d'avoir des directeurs et directrices de programmes qui viennent de tous milieux, qui ne sont pas uniquement forcément philosophes, mais qui viennent aussi d'autres disciplines. Et donc l'interdisciplinarité du collège, c'est quelque chose de très important, qui était défendu par ses fondateurs et qui continue d'être défendu aujourd'hui. Mais aussi une rencontre, pas seulement entre disciplines différentes, mais entre cultures différentes et entre énergies différentes. Nous avons aussi avec nous des artistes, comme je soulignais tout à l'heure. Nous avons des chercheurs, des chercheuses qui viennent de tout milieu et tout horizon. Et ça, pour nous, c'est très, très, très important. Et je pense aussi que cette configuration constitue vraiment une exception absolue dans l'histoire des institutions philosophiques et même dans l'histoire des... donc, toute institution a une histoire politique. Oui. Et donc, dans l'histoire de la politique de cette typologie d'institution. Donc, je pense que c'est quelque chose à défendre et c'est très important pour moi de le souligner.
De le souligner.
Puisque, je voulais juste préciser pour nos auditrices et auditeurs, puisque Barbara Zaoli a évoqué le nom d'Isabelle Alfandari, de rappeler que, comme vous, elle a dirigé le Collège international de philosophie aux alentours des années 2019, 2020, 2021. Voilà, une présidente comme il y en a eu et comme vous l'êtes aujourd'hui, Barbara Zaoli, effectivement.
Et justement, chère Nathalie, notre ancienne présidente Isabelle Alfandari était parmi nos invités.
Tout à fait. Elle est venue à Aligre FM.
Aligre FM pour présenter son dernier ouvrage, qui était tout à fait passionnant.
Oui, puisqu'elle a une formation de philosophe et de psychanalyste et de spécialiste de littérature anglaise.
Exactement. Voilà. J'aimerais bien mentionner, comme ça, j'ai fait un peu le lien. On a beaucoup parlé de la question du rapport bleu. Oui. On a beaucoup parlé aussi de l'importance du rapport bleu, aussi par rapport à Jean-Pierre Faye. Mais je voulais aussi dire à nos éditeurs que François Châtelet est un peu l'auteur référence de notre Nathalie Perrin. Oui. Donc je suis face vraiment à deux autorités en ce sens-là. Mais j'aimerais bien moi aussi partager avec vous un souvenir d'Isabelle Alfandari qui m'a dit toujours il faut lire et relire le rapport bleu. Parce que toutes les choses qu'il nous a dit si bien notre nouvelle présidente Barbara Zoli, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir une formation spécifique, l'ouverture, l'intersectionnalité, l'international comme peut-être essence de ce collège sont déjà là dans le rapport bleu. Alors je me permets aussi de dire à nos auditrices et nos auditeurs que le Collège international des philosophies a une collection aux presses universitaires de Paris-Nanterre et le rapport bleu a été republié grâce à l'initiative d'Isabelle Alfandari.
Tout à fait.
Et donc c'est tout à fait aussi là pour que la mémoire puisse retrouver élan et lecture. Hein,
et ça s'appelle vraiment le rapport bleu aux presses universitaires de Nanterre et c'est le texte fondateur de cet institut désinstitutionnalisante, comme on pourrait le dire. Et je conseille vraiment aux auditeurs, parce que là, on a Derrida, François Châtelet, on a des textes de Jean-Pierre Faye, on a tous les gens qui sont autour de cette fondation du collège, avec les grandes lignes directrices, et peut-être le concept, mais là, Barbara Zaoli, vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus, puisque vous avez candidaté comme directrice de programme, puis désormais, vous dirigez cette institution. Avec moi, j'ai l'impression, comme concept fondateur de cette institution, l'ouvert, la notion d'ouverture. Est-ce que ça vous dit de rebondir sur ce concept-là et de nous parler un peu plus de cette institution que vous présidez désormais ?
Tout à fait. Et merci de m'étendre cette main pour parler de l'ouverture nécessaire et essentielle et fondatrice du collège. Effectivement, donc, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, le collège est vraiment un lieu ouvert. Bah, d'abord parce qu'il est ouvert à tout le monde et pas seulement à des docteurs en philosophie.
Ou des spécialistes.
Il est ouvert donc à des différentes typologies de chercheurs et de chercheuses et à des artistes, comme je le disais. Mais aussi, Ce que je voudrais souligner, ce que je soulignais en partie tout à l'heure, c'est que les collèges restent et restera, j'espère, toujours, et l'a toujours été, comme on le remarque très bien si on lit, quand on lit les rapports bleus, un lieu de l'agitation.
Oui.
En fait, on ne peut pas prendre... Et ça relie un peu, je fais les liens aussi avec ce que Michel, tu m'as demandé tout à l'heure en ouverture,
oui.
Quand tu disais qu'il y a parfois des problématiques à résoudre au collège aussi. En fait, ces problématiques font vraiment partie de ces principes, parce que le collège est un lieu de l'agitation, et quand je dis un lieu de l'agitation, c'est parce que c'est au collège que s'engagent des pensées différentes, des pratiques différentes, des expériences différentes et des politiques différentes aussi. C'est-à-dire que dans un moment où il y a quand même une tendance très forte à réduire les champs des disciplines à quelque chose de l'ordre d'une spécialisation à tout va, mm-hmm. et d'une étroitesse de plus en plus marquée, aussi bien dans l'enseignement supérieur et la recherche que dans le secondaire, d'ailleurs.
Absolument, oui, oui.
Le fait d'avoir un lieu où on puisse vraiment... où les directrices et directeurs de programme ont été élus sur leur programme, et donc où ils puissent prendre les directions qu'ils souhaitent sans avoir des cadres à respecter, des cadres autoritaires à respecter, c'est très très important, mais aussi l'effet de pouvoir exercer librement les droits à la philosophie, comme le soulignait Derrida
tout à fait, dans son magnifique ouvrage du droit à la philosophie.
Donc exercer les droits à la philosophie, c'est-à-dire pouvoir faire de la philosophie librement, en fait, donc mm-hmm. sans avoir forcément un titre pour faire de la philosophie, sans faire de la philosophie pour obtenir un diplôme, mais juste pour le plaisir de faire de la philosophie et de partager son expérience philosophique avec d'autres directrices et directeurs de programme. Donc pour nous, c'est très très important, et c'est vraiment quelque chose qui fait partie depuis la fondation du Collège international de philosophie, de son esprit au fur et à mesure, les longues des années, et qu'on voudrait continuer à défendre, à porter, et qu'on continue de les faire avec des sensibilités très très différentes à chaque fois. Ce qui fait que c'est un lieu qui est tout le temps agité.
Agité. Mais alors je me demande, je reviens à ce que vous venez de dire, Barbara Zoli, en quoi le Collège international de philosophie représente un expériment politique? Parce que ma première impression, je le dis très franchement, chère Nathalie, ça a été, ah voilà, la démocratie marche vraiment ainsi, dans le sens que je me suis trouvé dans un endroit où les décisions, je le dis franchement, étaient discutées, où il y a une sorte de parité, où le président ou la présidente est un primus ou une prima inter pares, mais pas dans le sens de la théorie politique, mais dans le sens qu'on va décider ensemble. Donc j'ai trouvé qu'il y a toujours une sorte aussi de laboratoire politique.
Oui, alors ça revient à questionner cette idée d'un collège, parce qu'on vient de le dire à nos auditrices et auditeurs, et on le répète depuis le début de l'émission, vous êtes la nouvelle présidente de l'Assemblée collégiale du Collège international de philosophie. Que suppose l'idée du collège? Et là, du coup, on en vient aussi à cette structure particulièrement démocratique du fonctionnement de cette institution, qui n'en est pas tout à fait une, et structure d'ailleurs démocratique dans ces instances, qui a été pensée dans le rapport bleu par les grands philosophes qu'on a cités à l'instant. Barbara Zaoli.
Tout à fait. C'est-à-dire que le fait qu'au Collège international des philosophies, la philosophie ne soit pas, ne prenne pas une forme classique hiérarchisante, oui. on va dire, qu'on essaye parfois de nous imposer ailleurs, ça se répercute jusqu'au sein de ces institutions, enfin, oui. de sa structure, structuration. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises au Collège international de philosophie sont prises en assemblée collégiale. Et donc, l'assemblée collégiale, c'est l'organe central du Collège international de philosophie qui fait que les 50 directrices et directeurs des programmes qui composent l'assemblée collégiale prennent toute n'importe quelle décision ensemble et dans le cadre de cette assemblée collégiale qui s'est réunie je dirais en ce moment une fois par mois, donc assez régulièrement. et en fait aucune autre décision est prise par exemple par le président ou la présidente, donc par moi-même, mais toute décision est prise en assemblée collégiale. Donc là, je pense que quand vous parlez effectivement d'esprit démocratique et d'expérimentation démocratique très forte, c'est que et moi aussi quand je parlais de lieu de l'agitation, c'est justement parce que il va falloir, pour prendre des décisions, pour prendre une décision quelconque, que les 50 directrices et directeurs des programmes se mettent d'accord sur un point et puis qui discutent jusqu'au moment où un accord est trouvé sur une telle ou une telle question. Ça, c'est très important pour nous et ça l'a toujours été depuis l'acte fondateur vraiment du collège et depuis les états généraux de la philosophie qui ont donné lieu à cette création. Cet état général de la philosophie sont nés dans une lutte politique, à l'intérieur d'une lutte politique. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour nous, c'est quelque chose qu'on tient à défendre, à maintenir, mais c'est quelque chose, encore une fois, qui fait les liens avec le passé et cet acte fondateur majeur du Collège international de philosophie.
Oui, tout à fait, c'est intéressant, on peut rebondir sur plusieurs choses. Alors, moi, le Collège international de philosophie, j'en ai fait partie et comme vous deux ici autour de cette table, il y a vraiment, je crois, un modèle démocratique du fonctionnement de cette institution. C'est vraiment ce qui ressort, c'est-à-dire un peu comme Rousseau disait, il ne doit jamais y avoir quelqu'un à la tête du pouvoir qui soit comme ça institué de manière définitive, hein, puisque vous allez être d'ailleurs présidente pendant combien de temps? Pendant
jusqu'à 2028.
Voilà.
On l'espère. Non. en tout cas, pas plus.
Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée dans l'idée du collège, hein, de l'idée d'un collège, c'est vraiment chacun peut avoir voix aux décisions qui font fonctionner l'institution dans laquelle on est. Il y a cette idée de la destitution du pouvoir transcendant qui serait liée à une présidence qui prendrait depuis le haut toutes les décisions pour les autres. Donc ça, vous venez d'expliquer que c'est absolument pas le fonctionnement. Et vous venez de rappeler qu'effectivement, ce Collège international de philosophie, il s'appuie sur des luttes, alors menées avec François Châtelet, Jacques Derrida, autour de ce qu'on a appelé le GREPH, hein, le GREPH. Voilà, un GREPH, le GREPH. C'était vraiment ce mouvement qui s'est constitué des profs de philo, des profs d'histoire notamment, en lien avec une répression politique de la philosophie menée notamment sous le gouvernement de droite de Giscard d'Estaing, avec notamment cette fameuse femme Abby, hein, le gouvernement Abby comment est-ce qu'elle s'appelle, CIT, voilà, j'ai un trou de mémoire, mais en tout cas le Collège international de philosophie s'est fondé vraiment sur la défense de la philosophie, mais une philosophie qui s'ouvrirait. Et là, on a peut-être, il faut dire à quel point même cette institution-là est ouverte à n'importe qui dans le public. Je veux dire, n'importe qui peut venir écouter des séminaires de très très haute volée. Mais vraiment, hein, c'est ça qui est extraordinaire aujourd'hui. Évidemment, sans payer. Gratuit.
La gratuité, oui.
Bon, il faut qu'on rebondisse là-dessus, c'est magnifique. Parce que la démocratie, c'est aussi ça, c'est la démocratie, c'est la philosophie partagée, c'est la philosophie en partage. C'est Barbara Zaoli, pardon.
Oui, alors tout à fait. Tu fais très bien de le souligner parce qu'effectivement, l'une des richesses incroyables du Collège international des philosophies, c'est pas seulement ses directrices et directeurs des programmes de l'Assemblée collégiale, mais c'est aussi les publics. Parce
tout
que les publics est quelque chose d'absolument hétérogène. Vous avez, par exemple, dans mon dernier séminaire, j'avais dans les publics, cette année, je dis dernier parce que cette année, je viens de commencer mon séminaire. Mais j'avais dans le public des étudiants d'université, des étudiants de lycée, enfin des élèves, mais aussi des personnes qui venaient du monde du travail, qui n'avaient rien à voir avec, qui n'avaient jamais fait de la philosophie de leur vie, donc des ouvriers. Et j'avais aussi une femme politique que voilà, je ne vais pas forcément citer, mais qui venait fréquenter les cours. Et donc il y a toutes sortes de publics qui et même des personnes qui avaient appris qui passaient sur les campus et qui avaient appris la présence du Collège international des philosophies sur le campus et qui débarquaient comme ça
au milieu du
cours.
C'est marrant parce qu'on vous entend et on a entendu votre parcours. Vous êtes docteur en philosophie, vous êtes passé par l'université de Paris 8 Vincennes et effectivement le Collège international de philosophie, et vous l'avez rappelé parce que vos professeurs étaient des gens qui étaient passés par le Collège international de philosophie. Finalement, le CIPH, le Collège international de philosophie, François Châtelet d'ailleurs le disait comme une émanence de Paris 8, une manière de vouloir de ce lieu expérimental qu'était l'université Paris 8 au moment de la création par Edgar Faure. Une ouverture au public, un public qui ne serait pas un public de spécialistes, des enseignants qui faisaient en sorte que la philosophie dont ils allaient parler face à ce public en soit elle-même transformée dans la parole, puisqu'il ne s'agit pas d'une parole élitiste, c'est ça qui est aussi sublime au CIPH et qui est issu de cette première grande institution du centre expérimental de Vincennes, fondé en 1969, me semble-t-il.
Et aujourd'hui, c'est bien de préciser un peu la richesse des séminaires
qui se déroulent au CIPH.
Alors, seulement pour les auditrices ou les auditeurs, vous avez bien la possibilité de trouver les programmes, le grand programme des séminaires de CIPH sur le site de l'institution dont on est une instance, c'est-à-dire le campus Condorcet.
Oui.
Et seulement pour vous dire les intersections. Donc, ils sont vraiment d'une richesse, époustouflant, je trouve, parce qu'il y a philosophie, art et littérature, philosophie, éducation, philosophie au pluriel, philosophie politique, société, psychanalyse, sciences humaines, sciences et techniques. Donc vous voyez, encore une fois, l'énorme des richesses. Et en plus, chère Nathalie, Barbara Zoli le sait très bien, il y a aussi les séminaires externes, chère Nathalie. Donc des séminaires qui sont proposés par des non-directrices ou directeurs de programme et qui sont, bien sûr, comme d'habitude, acceptés et validés par l'Assemblée collégiale et qui font rayonner le CIPH dans des institutions très prestigieuses comme par exemple l'IRCAM, donc philosophie et musique contemporaine.
Oui.
Alors, juste pour peut-être terminer cette première partie, et je voudrais poser à notre invitée, chère Nathalie, une question concernant les nouveautés de ce nouveau tournant au Collège international de philosophie. Donc, je fais une fois encore le naïf. alors, quelles sont les nouveautés s'il y a des nouveautés, parce que vraiment, j'ai l'impression, je le dis très franchement, qu'un grand travail aussi de renouvellement, mais dans les sens aussi intellectuels, nouvelle énergie, mais aussi nouvelles initiatives, a été fait, en train d'être fait. Et alors, Barbara Zoli, quelques nouveautés. Moi, j'en ai déjà deux ou trois, mais quelques nouveautés que vous voulez mentionner avec nous.
Alors, d'abord, cher Michele Saporiti, j'aimerais bien quand même souligner que vous êtes le vice-président du Collège international de philosophie.
Vraiment?
Parce que pour les publics, mais parce que en fait, l'Assemblée collégiale vient de vous élire, donc
vice-président. Mais j'étais pas au courant. Bravo.
Merci. Je suis rouge.
Et oui, donc il y a d'abord des nouveautés liées à notre intégration au campus Condorcet, c'est-à-dire que par exemple on vient de participer activement, et on l'a fait l'année dernière aussi, au Printemps des Humanités, qui est un gros événement qui s'organise au sein du campus Condorcet, où il s'agit de faire communiquer les humanités entre elles. Et donc, c'est tout à fait dans l'esprit du Collège international de philosophie. Donc, le Collège international de philosophie prend parti aux initiatives du campus Condorcet avec sa touche tout à fait particulière, parce que c'est quand même... là, on a une table ronde, par exemple, sur le travail. Qui était tout à fait, comment dire, qui reflétait très très bien l'esprit du CIPH, parce qu'il y avait dans les publics justement beaucoup de lycéens et pas seulement d'universitaires comme dans les autres tables rondes.
Fondamental. On revient dans la deuxième partie.
Oui. Et donc, ça c'est une des actualités, même si ça a toujours été le cas, la présence de lycéens, mais là on va renforcer la présence du public de secondaire dans les collèges international des philosophies. En tout cas, c'est l'un de mes objectifs en tant que présidente. Et puis aussi, on a renouvelé, il n'y a pas longtemps, notre assemblée collégiale. Donc, il y a des profils très, très différents. Donc, il y a une hétérogénéité encore accrue, je trouve, parmi les directrices et directeurs des programmes. Et avec cette dimension, justement, internationale qui est toujours très, très forte. Et on a... ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien souligner par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, et donc à cet aspect politique du Collège international de philosophie. En fait, les collèges internationaux de philosophie ne s'engagent pas uniquement en politique par ses prises de position, mais ils s'engagent aussi à travers les programmes de recherche des directrices et des directeurs des programmes. Et là, je peux vous faire un exemple. Là, l'une de nos directrices des programmes, de nos nouvelles directrices des programmes qui viennent de nous rejoindre, c'est Sophie Gigaud, qui travaille par exemple sur la philosophie des terrains et qui va faire et sur la question des migrants. Elle organise donc vous êtes tous et toutes les bienvenus. Les 10 avril, une journée d'études sur la Palestine. Et pour nous, c'est aussi bien théoriquement que dans la pratique, pour nous, c'est un acte politique, cette journée d'études. Et on est très, très fiers de la compter parmi nous. Mais il y a aussi des directeurs de programme qui sont là depuis déjà quelques temps, comme je pense notamment à Jean-Jacques Cadet, par exemple, qui est un directeur de programme haïtien, qui fait un séminaire passionnant sur l'écologie politique et l'épistémologie face à la crise d'Haïti. Donc, ce sont vraiment des directions des programmes qui sont souvent, pas systématiquement, mais ancrées dans les terrains et dans les luttes politiques. Donc, ça, c'est quelque chose que je souhaite continuer et prolonger et qui fait partie de notre nouvelle richesse.
Alors, chère Nathalie, on fait une petite pause musicale.
Tout à fait. On va annoncer que c'est le choix de notre invitée aujourd'hui, Barbara Zaoli, qui a choisi Alain Bachung, n'est-ce pas ? Samuel Hall.
Comme ça. quoi. Oh Seigneur, je dis, oh. Tu ferais mieux de revoir tes vieux amis, dit-elle. Tu ferais mieux de revoir tes vieux amis. Glissez le carbone plus papier dans la machine et au travail. C'est ça, oui, c'est ça, dit-elle. Avale, me disais-je. Allez, avale, avale. Allez au diable, je m'appelle Samuel Hall.
Oui, donc philosophie au présent, Radio Ligue FM. Une émission en partenariat avec le Collège international de philosophie et aujourd'hui avec la nouvelle présidente Barbara Zoli qui a choisi ce magnifique morceau, Samuel Hall.
Et, du grand Alain Bachung.
Du grand Alain Bachung.
Voilà.
Pourquoi ce morceau, Barbara Zoli? Pourquoi cette musique
Vous êtes philosophe, vous aimez des drôles de musique quand même.
C'est vrai, hein, ils sont bizarres ces
Bach,
philosophes.
Ils sont bizarres ces philosophes. Alors, pourquoi cette bizarre, musique bizarre, Barbara Zoli, qui n'est
alors,
pas bizarre
cette
du tout
musique hein. Donc oui, c'est une chanson d'Alain Bachung, ça c'est un premier point. Bon, d'abord c'est quelque chose de très simple, j'adore Alain Bachung. Bon, donc, et c'est une chanson qui fait partie de son album que je préfère, donc Fantasy Militaire. Mm. Et en plus de cet élément-là, elle est composée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Rodolphe Bourget.
Ah oui, oui.
Et donc philosophe,
oui,
aussi, et Olivier Cadio. Et cette chanson, enfin les titres en tout cas de cette chanson s'inspirent d'une vieille chanson country intitulée Sam Hall. Mm-hmm. Et la version originale de la chanson qui daterait en tout cas de 1850, donc c'est
oui,
une vieille chanson,
c'est vieille chanson, ouais.
Et qui a évolué au fur et à mesure, les fils du temps, plein de versions différentes, mais l'une des versions c'était par Johnny Cash qui est un autre
oui, j'adore aussi.
Auteur
géant.
Que j'adore, un ouais. géant que j'adore,
ouais. Ouais.
Donc ça ce sont déjà des raisons, mais surtout les textes. Je le trouve incroyable parce mm-hmm. qu'il évoque l'histoire d'un homme qui se trouve dans une cuisine et il essaie d'écrire, d'être écrivain. Et il est dénigré par sa femme qui ne croit pas du tout qu'il va pouvoir produire quelque chose d'intéressant. Et donc, il y a le refrain que je trouve génial où Bachung dit « Allez au diable, je m'appelle Samuel Hall, je vous déteste tous », qui est vraiment le refrain quelque part de l'échec, mais aussi de la révolte.
Oui.
Et donc, il y a ce mélange d'échec et de révolte que je trouve très, très touchant. Et qui se retrouve aussi dans la version américaine par ailleurs, qui existait déjà dans la version américaine. Et donc il y a cette idée de, je pourrais dire qu'il y a cette idée de lâcher prise, mais aussi de vous n'avez rien compris de moi, et donc de défense de sa propre, de son propre échec ou de son expérience d'écriture. Qui m'a beaucoup plu, voilà.
Donc l'écriture qui est quelque chose qui vous appartient beaucoup.
Oui, alors... puisque ça fait partie de toute façon de votre recherche aussi, hein, ce rapport à l'écriture
oui, bon,
et à la pensée.
Exactement. Bon, chère Nathalie, je voulais mentionner au moins 3 publications parmi la longue
Bien
liste de Barbara Zoli. Pour une nouvelle Bildung, la critique de Nietzsche entre éducation et spiritualité, justement sur Roux Descartes,
oui,
donc la revue du collège.
On avait eu ce plaisir lors du numéro qu'on avait fait avec Vanessa Brito et Malgorzata Grigelievich de proposer à Barbara Zoli d'écrire sur l'éducation à partir de Nietzsche, puisque vous êtes une spécialiste de Nietzsche,
Nietzsche.
Connaisseuse de Nietzsche. Hein.
Et de... Après, il y a 2 autres, je mentionne, je trouve, l'entrée révolte pour les cahiers, justement, Georges Bataille, auteur de référence, donc 2019, et encore Fiat Veritas, je le prononce à l'italienne, pas la française, mais Fiat Veritas, Pereat Vita, Albert Camus, La vérité des philosophes, rue Présence d'Albert Camus, 2019. Oui. Donc, on a déjà plusieurs auteurs qui vous représentent beaucoup. Il y a Georges Bataille, il y a bien évidemment Albert Camus, il y a aussi Nietzsche. Alors, si tu es d'accord, chère Nathalie, ça serait bien intéressant un peu de demander à notre invité, qui est, je le rappelle, qui a une fonction sociale et politique essentielle que vous partagez, c'est-à-dire que vous êtes professeur de philosophie en secondaire. Oui, donc vous êtes le moteur aussi de changement, je trouve. Soit si la jeunesse est l'espoir du changement, et je crois en ça profondément. J'aimerais bien vous demander, Barbara Zoli, quelle est la relation, s'il y a, j'en suis sûr qu'il y a, entre vos recherches, vous en tant que chercheuse en philosophie, et vos enseignements dans la secondaire. Et s'il y a justement, s'il y a quelque chose que vous voyez, on a beaucoup parlé ici à Philosophie au présent, du particulièrement problématique dans l'enseignement de la philosophie en secondaire aujourd'hui, Barbara Zoli.
Et moi je rebondis, parce qu'en fait Michele Saporiti a nommé finalement trois grandes figures de votre œuvre personnelle de philosophe qui, pour moi, apparaissent comme des philosophes à la marge. Et c'est à la marge que j'aimerais que vous ne perdiez pas de vue, Barbara Zaoli, dans votre réponse, parce que je crois aussi que vous dirigez actuellement une institution à la marge. Voilà, pardon, je voulais juste rajouter ça pour ne pas le perdre.
Tu as fait très bien. Voilà. Barbara Zaoli.
Merci Nathalie pour cette précision, parce que effectivement, ce qui m'a fait choisir ces trois figures tutélaires sur lesquelles je travaille depuis désormais une quinzaine d'années. Hein, donc, c'est justement l'effet qu'ils soient des philosophes à la marge, comme tu l'as très bien souligné. Mm. C'est-à-dire que, aussi bien que l'on parle de... Alors, je vais partir par Albert Camus et Georges Bataille, parce que, en fait, mes recherches se situent effectivement dans la lecture française de Nietzsche, qui est une lecture tout à fait particulière de la pensée de Nietzsche et qui, je dois dire, n'est pas la plus appréciée dans le milieu universitaire. Il faut faire très attention, par exemple, en Italie, quand présentez les lectures françaises de Nietzsche, on vous prend pour des fous. mais vraiment. Et oui, ce qui m'a plu dans ces lectures, et surtout, alors là, j'insiste plus sur Bataille, parce que mes recherches actuelles porte vraiment sur une interprétation, une lecture poétique et politique de l'expérience antérieure. Mais donc, ce qui m'a beaucoup intéressé de travailler à travers Bataille, c'est ces liens à Nietzsche qui soulignent des aspects de la pensée de Nietzsche qui ont peu été soulignés en réalité et qui les lie avec la politique aussi, c'est-à-dire la souveraineté, l'idée de vivre des expériences qui ne soient pas sous l'emprise de cette vision métaphysique de l'expérience qui relègue l'expérience à quelque chose de très important, certes, mais en tout cas de limité, mais d'ouvrir l'expérience à quelque chose qui soit de l'ordre d'un accident, d'un imprévu, de tout ce qui ne rentre pas dans les projets utile et donc qui soit aussi souverain par rapport au temps, c'est-à-dire qui soit hors délai. Et donc, ça, ce qui m'intéresse beaucoup et ce qu'il y a des politiques pour moi dans cette pensée, c'est que aujourd'hui, on est, il me semble, de plus en plus empêché de vivre des expériences de ce type, c'est-à-dire que nos temporalités est tout le temps soumise à celle du travail et à celle de l'utile. Et donc, on passe nos journées à succomber à ces prismes de l'utile, et moi-même, qui travaille sur ces philosophes, je ne suis pas émancipée de cette prison, on va dire, de l'utilité. Et donc, c'est vraiment une invitation à sortir de ce prisme-là et à vivre des expériences libérées de l'utile. Et cette vision de Nietzsche m'a beaucoup intéressée parce que je ne l'avais jamais rencontrée ailleurs qu'en France. Et en plus, ça m'a vraiment permis de comprendre Nietzsche autrement par rapport à ma compréhension initiale du philosophe.
Alors du coup, pour revenir à la présence indispensable des lycéens au cœur du Collège international de philosophie que vous présidez, alors comment vous faites le lien ces philosophes à la marge et cette marge aussi de la philosophie que sont nos lycéens qui pourtant voilà, ont de la philosophie en terminale, un peu en première, et que le Collège international de philosophie a toujours eu le désir, y compris dans son rapport bleu, hein, son rapport fondateur, d'inclure comme étant un public essentiel pour l'avenir même de la philosophie.
Alors, d'abord, sur les liens entre les auteurs que je travaille et puis l'enseignement dans les secondaires, donc avec un public d'élèves et de lycéens, ce ne sont pas des auteurs qu'on travaille habituellement au lycée, ou en tout cas pas trop, enfin Nietzsche un tout petit peu quand même, mais c'est pas non plus les plus indiqués par les programmes de l'éducation nationale. Mais en fait, ce sont des auteurs qui permettent justement, je trouve, par leur ouverture et leur caractérisation d'être des auteurs à la marge, justement, de faire un pas au-delà pour les élèves. C'est très important parce qu'ils sont face à cette grandeur, cette immensité écrasante parfois de la philosophie qui travaille pendant seulement un an, je vous rappelle, parce qu'un des projets, un des grands projets d'Derrida était justement de commencer beaucoup plus tôt, mais Châtelet aussi, je pense, tu me corrigeras.
Passons à l'Italie.
De commencer beaucoup plus tôt l'enseignement de la philosophie. Et moi, j'ai eu l'occasion, dans les cas d'autres emplois que j'ai eu, de faire des ateliers de philosophie au collège. Et les collégiens étaient très, très forts en philosophie.
Les enfants aussi.
Pour revenir au Collège international de philosophie, pour nous, la présence des lycéens est absolument essentiel, et c'était l'un des critères des fondateurs du Collège international de philosophie qui avait réussi à obtenir quelque chose de très important qui était une décharge pour les professeurs de philosophie qui enseignaient au collège. Et donc c'est quelque chose qu'on a perdu malheureusement.
Oui, au collège et au secondaire et dans le secondaire de manière générale, le lycée, de pouvoir faire une recherche au Collège international de philosophie.
Et donc ça permettait déjà en soi d'avoir une présence lycéenne importante. Donc là, il s'agit de la retrouver. Mais il me semble qu'on est sur les chemins. En plus, on est soutenu par les campus Condorcet
bien sûr. Vice-président. Non, mais c'est vrai. On est bien soutenu.
Dans cette démarche, en tout cas. Mais donc, ça me semble très important dans un moment, et là, je me place du point de vue des lycéens.
Oui.
Dans un moment où ils sont de plus en plus contraints par des questions de temps et d'utilité, puisque avec les nouvelles donc réformes, Parcoursup, etc., parce qu'il y a déclinaison, master, etc.
Oui.
Donc ils sont de plus en plus contraints de savoir déjà très très jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire après. Et pour moi, ça, c'est terrifiant, parce que c'est quelque chose de terrifiant. Pour moi, c'est la chose la plus terrible qui soit, parce qu'ils n'ont pas droit à l'erreur, en fait. Ils n'ont pas droit à l'erreur, ils n'ont pas droit à l'expérience de la philosophie, justement. Et ça, c'est vraiment dommage.
Tout à fait. Merci beaucoup, Barbara Zaoli. Voilà, on a encore quelques petites minutes dans notre émission, mais en tout cas, on a pu évoquer l'importance de ce public lycéen, de ce public jeune, pour vous, dans votre présidence actuelle. Voilà, cette ouverture qui était au fondement de cette institution. Parler au plus grand nombre, c'est pas un gros mot pour la philosophie du Collège international de philosophie. Alors, cher Michele, on va maintenant annoncer votre magnifique flânosophie.
Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Ligre FM, je vous souhaite la bienvenue dans notre rubrique Flânosophie, Comme vous le savez, la philosophie est la quasi-science du divertissement intellectuel, un geste philosophico-politique, ou parfois philosophico-poétique, qui nous porte à explorer des objets, des espaces, des temporalités, de flâner dans le plaisir intellectuel. Fidèle à notre propos, aujourd'hui, un voyage à travers le temps nous attend. Pour être plus précis, nous allons explorer une temporalité troublante pour tout philosophe, écrivain, poète ou compositeur, le temps figé. Ces moments parfois interminables où l'inspiration ne vient pas, où rien ne bouge, où la blancheur de la page est le plus terrible des déserts. Inspiration, quel mot magnifique! Les anciens invoquaient les muses, les déesses des arts libéraux. Aujourd'hui, beaucoup de gens invoquent l'intelligence artificielle, la déesse trompeuse des arts illibéraux. Pendant le temps figé, les questions s'y multiplient. Est-ce que j'ai perdu mes capacités? Belle question. Est-ce que j'ai choisi le mauvais métier? Oh bon, probable. Voici que le penser fuit dans toutes les directions, sauf dans la bonne. Mais comment analyser les temps bloqués d'un point de vue philosophique? Les temps dont on est prisonnier possède au moins trois natures. Tout d'abord, il a une nature ontologique, c'est-à-dire qu'il nous permet de saisir l'être créatif dans sa nudité. Un penseur ou un créateur quelconque est censé trouver un objet pour exprimer ses capacités, pour affirmer son ipséité. Mais qu'en est-il d'un créatif qui ne trouve pas d'idée à exprimer? En quoi cette situation le rend-elle différent des autres ou identique à tous les autres? Le défi lancé au temps est contre le temps. Est-il la substance de cette nudité ontologique des créateurs? Ensuite, le temps figé possède une nature gnosiologique, car il nous permet de connaître de près les limites de nos capacités. Et c'est là que nous pouvons vivre une expérience authentiquement nietzschéenne. Face au vide, face au rien, face à la blancheur du néant, nous avons deux options. Constater avec angoisse et rester immobile, figé, désespéré. Voir dans une page blanche la plus grande opportunité pour affirmer une force créatrice, pour exprimer un élan vital. Enfin, les temps bloqués possèdent une nature anthropologique. On ne peut pas produire, écrire, créer, inventer tout le temps sans repos. On ne peut pas faire de la quantité une dimension qualitative de nos vies. À un certain point, nous devons accepter l'existence de la page blanche et lui accorder les temps qu'elle demande. C'est les temps improductifs qui nous permettent de rester humaines, heureusement humaines. Cher philosophe, on sait bien que tout philosophe, écrivain, poète, compositeur, et la liste pourrait continuer longuement, est un petit roi Mida. Elle ou il doit avoir la capacité de tout transformer en inspiration. La joie, les chagrins, les deuils, la vide, le vide, la plénitude, le temps figé, l'inspiration. C'est-à-dire l'or des créateurs, forgé par la voix subtile du muse qui nous chuchote. Tu devrais justement écrire sur ton blocage créatif.
Magnifique, merci beaucoup. En plus, en écho avec notre invitée aujourd'hui, Barbara Zaouli.
Tu as vu, chère Nathalie,
c'est magnifique.
C'est-à-dire, c'est un écho. C'est un écho sans le savoir.
C'est magnifique. Bon, bah, on touche à la fin de notre émission, oui, mais on s'était dit qu'on allait faire un petit questionnaire parationnel, n'est-ce pas?
Exactement.
Voilà, alors il me semblait que j'avais tout de suite pris ce petite. Alors.
Je pourrais commencer avec une question.
Ah oui, je veux bien.
Alors, je vais t'aider avec amitié, chère Nathalie. Cher Barbara Zouchi, non, restez tranquille. La règle est très simple.
Oui,
pas réfléchir.
Interdiction de réfléchir et on répond très, très vite.
Exactement, hein.
Voilà, et on pose quelques questions rapides.
Exactement. vous avez envie de dire quelque chose à la jeunesse? Et quoi vous avez envie de dire à la jeunesse?
Défendez vos droits à la philosophie.
Merci.
Magnifique. Quel est votre rêve d'enfant?
D'être écrivain.
Oh. Y a-t-il des choses qui restent mystérieuses pour vous?
Dieu.
Oh là là. Oui.
Oh là, massage. Exemple.
Wow. Quelle couleur pourriez-vous associer à votre parcours intellectuel?
Violet.
Ah, ah.
Sans réfléchir.
Sans réfléchir. Non, pas du tout.
Sans réfléchir. À quel animal pourriez-vous associer votre recherche?
Un chat.
Ah oui. Quel personnage auriez-vous aimé rencontrer et pour lui dire quoi ?
Georges Bataille, pour lui dire de arrêter de me hanter avec sa pensée.
Quel est votre plus grand espoir ?
Que les collèges internationaux de philosophie existent toujours, pour toujours.
Oui, voilà, bah, c'est beau.
Magnifique.
Bon, on va s'arrêter là parce que ça serait quand même bien de rappeler à nos auditrices et auditeurs qu'ils peuvent effectivement aller, alors peut-être sur le site de la Rue Descartes, qui est la revue du Collège international de philosophie, pour la consulter en ligne, puisque c'est une revue en ligne. Oui. Donc là encore, la gratuité du CIPH qu'on souligne, avec des articles magnifiques qui fêtent et qui reviennent sur ces 40 ans d'existence de l'institution du Collège international de philosophie. On rappelle que c'était nos amis également Pauline Vermeren et Vanessa Brito, qui sont à l'origine de cette publication. Voilà. Et puis d'aller voir tous les programmes des directeurs de programme du Collège international de philosophie. Nous vous rappelons, auditrices et auditeurs, que ces programmes, vous pouvez aller écouter des chercheurs ici et maintenant, au présent, faire de la grande philosophie. Et c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer.
Non. Et voilà. C'est à Paris, mais aussi dans le monde entier, chère
Nathalie. Tout à fait, et voilà, exactement.
Et alors, on rappelle aussi cette magnifique émission qu'aujourd'hui, on a eu la chance de faire ensemble, c'est-à-dire Philosophie au présent. C'est très important de donner à l'IGRE FM, parce que c'est une association. Nous sommes des bénévoles, en ce sens-là.
Tout à
c'est
fait.
Une radio libre, il faut le souligner. La liberté, on le sait, n'est pas la règle. Jamais la règle.
C'est même l'exception et on est ravis de ce partenariat qu'on a avec Aligre FM, que le Collège international de philosophie a avec Aligre FM. Et c'est à ce titre qu'on a reçu sa présidente aujourd'hui. On souhaite alors longue vie au CIPH.
Longue vie au CIPH.
Voilà.
Hourra.
Hourra. Dire,
alors, on se voit la prochaine fois, chère Nathalie.
Oui, bien sûr. Tout à fait. Fait.
Et alors, on dit au revoir à nos éditrices, à nos auditeurs. Merci Barbara Zoli pour
Merci
être
à vous.
Avec voilà. nous.
Et vous n'hésiterez pas, auditrices et auditeurs, à aller écouter les podcasts de Philosophie au présent qui sont mis en ligne sur le site d'Aligre FM. Voilà. Ben, merci beaucoup Barbara Zoli d'être venue, d'avoir fait cet honneur.
Et puis, merci à vous.
Voilà, on dit longue vie à cette belle et grande institution et une pensée émue pour Jean-Pierre Fay qui
Bien
nous
sûr.
A quittés,
Merci.
Un de ses grands fondateurs. Merci
à
toutes et à tous.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.